Bonjour Jean-Luc Romero-Michel, vous êtes adjoint à la maire de Paris et président d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, à l'ADMD. Vous êtes aujourd'hui en visite à Dijon. Vous tiendrez ce soir une réunion publique à la Maison des associations pour sensibiliser et mobiliser en faveur d'une nouvelle loi sur la fin de vie. On le rappelle pour nos auditeurs, le gouvernement a promis une loi à ce sujet. On en parlait en 2022 avec une loi attendue pour 2023, puis au printemps 2024 et qui devrait finalement arriver au plus tôt à l'été. J'imagine que ces reports successifs ont un goût amer hein, pour vous, Jean-Luc Romero-Michel.
N'avoir comme seule solution que de se suicider violemment ou de partir à l'étranger, c'est pas possible dans le pays des droits de l'homme. Donc oui, il serait temps quand même que le gouvernement bouge enfin sur la question. Et d'ailleurs, je le dis, moi, si vraiment à la fin du mois de juin, il n'y a pas de texte du gouvernement, moi, j'en appelle solennellement aux parlementaires. Il faut qu'ils reprennent des niches parlementaires et qu'ils déposent un texte, parce qu'on ne peut pas comme ça attendre la bonne volonté du président de la République.
En France, on a la loi Leonetti qui ouvre à toute personne majeure la possibilité de rédiger un texte qui ensuite donne la volonté de ne pas faire d'acharnement thérapeutique. Bon, j'imagine que c'est pas suffisant. Vous attendez quoi très exactement du gouvernement? Quelle avancée précisément?
Bah, vous savez, nous on ne demande pas grand chose de compliqué, on demande tout simplement de copier ce qui existe à l'étranger. Vous savez, tous les pays qui nous entourent, de la Belgique, Pays-Bas, Suisse, même l'Italie, l'Espagne, le Portugal, ont soit l'euthanasie, soit le suicide assisté, ou les deux. Le modèle belge, ça fait plus de 20 ans qu'il fonctionne. Dans ce pays, tout le monde en est satisfait. D'ailleurs, c'est pas les Belges qui fuient en France pour mourir, c'est les Français qui vont en Belgique ou qui vont en Suisse pour mourir dans la dignité. Faut tout simplement copier le modèle belge. Il donne satisfaction parce qu'il met la volonté de la personne au centre des décisions. Et c'est exactement ce qu'il nous faut ici. Une loi qui permette l'accès universel aux soins palliatifs, parce que là aussi, ils ont beaucoup parlé. Mais vous savez, on met beaucoup d'argent sur le début de la vie, puis on a l'impression qu'à la fin de la vie, on n'est plus citoyen. Et les moyens ne sont pas là. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas convenable qu'il y ait 21 départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Il faut que tout le pays soit couvert, qu'il y ait un égal accès pour chacune et chacun d'entre nous. Et puis à côté, parce qu'on sait que les soins palliatifs ne suffisent pas, il faut l'aide active à mourir. Vous savez, en Belgique, où ils ont plus de soins palliatifs que nous, les aides actives à mourir, c'est quand même 3,1% des morts. Aux Pays-Bas, c'est plus de 4%. Donc si c'était en France, vous imaginez, 3-4%, c'est des dizaines de milliers de personnes qui pourraient en bénéficier. Donc on voit qu'il faut faire les deux, c'est-à-dire avoir ces soins palliatifs et de l'autre côté, parce qu'il y a des situations où les soins palliatifs ne peuvent pas répondre, ou parce que des gens veulent pas y aller aussi. On a le droit de pas vouloir se soigner, on a le droit aussi de refuser d'aller dans une unité de soins palliatifs. Il faut donc une loi complète.
Comment vous expliquez qu'en France, un pays qui est aussi capable d'avancées sociales majeures, hein, notamment l'IVG dans la Constitution, hein, qui a été votée cette semaine, comment vous expliquez qu'en France, on puisse avoir autant de retard sur des sujets et beaucoup d'avance sur d'autres? C'est assez paradoxal.
Enfin, beaucoup d'avance, c'est vrai que là, c'est formidable. Ce qui s'est passé, d'être le premier pays à constitutionnaliser l'IVG, c'est formidable. Mais ces dernières années, on n'a pas été les premiers à dépénaliser l'avortement. On n'a pas été les premiers à permettre le mariage pour tous. On voit bien que sur un certain nombre de sujets, on a quand même des difficultés. Le pays des Lumières ne l'est pas toujours. Donc, on a cet exemple qui est formidable. Donc, continuons dans cette lancée et donnons ce droit ultime. Vous savez, une société qui donne aux gens ce droit qui n'est pas une obligation. C'est comme quand on a autorisé l'avortement, ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent se faire avorter, ça veut dire qu'elles ont ce droit-là parce que leur corps leur appartient. Eh bien nous, c'est la même chose, notre mort nous appartient, donc on doit avoir ce droit ultime de pouvoir éteindre la lumière, comme le dit la chanteuse Juliette, et de choisir le moment et la manière de mourir.
Le 15 juin 2021, vous avez accompagné le Dijonais Alain Coq en Suisse pour un suicide assisté. Il souffrait d'une maladie incurable. Il vous a demandé ce jour-là à Berne de continuer le combat. De là est né un serment et un livre, le serment de Berne, de la mort solitaire à la mort solidaire. Alain Coq, c'est un homme, un combat, une cause qui vous a profondément marqué, qui vous anime encore aujourd'hui?
Vous savez, Dijon est paradoxalement très lié à mes combats sur la fin de vie, puisque outre Alain Coq, il y a aussi Chantal Sébire que j'ai beaucoup suivi, que j'ai beaucoup accompagné. Donc évidemment, être ici aujourd'hui, c'est un peu particulier, parce que c'est vrai que depuis que j'ai sorti ce livre, que j'ai évoqué donc l'histoire d'Alain, que vous connaissez toutes et tous ici à Dijon, mais que certains ont un peu oublié ailleurs. Moi, je voulais rendre hommage à cet homme qui a eu mené un combat incroyable. Il est passé d'un combat individuel à un combat collectif. Je rappelle que c'était un militant sur les questions du handicap. Il avait lui-même fait des tours de France, des tours d'Europe en fauteuil roulant pour sensibiliser sur la dignité des personnes en handicap. Et malheureusement, il a été frappé par une maladie orpheline qui lui a enlevé toute possibilité de faire les gestes de la vie quotidienne. Il était totalement dépendant à la fois d'aide-soignant, d'infirmière. Il avait toute sa tête et il avait des douleurs physiques que rien ne soulageait. Il a demandé au président de la République le droit de partir, on le lui a refusé. Il a essayé par lui-même d'arrêter de s'alimenter, de s'hydrater, mais c'était trop violent, trop difficile. Et au bout d'un an, il m'a dit, bah, écoute, puisque personne ne m'entend ici, vous savez qu'il n'avait même pas le droit de bénéficier de la loi Leonetti, parce que la sédation profonde et continue qu'il a demandé. On vous endort, on arrête de vous alimenter, de vous hydrater, vous mourrez de faim et de soif, mais au moins vous pouvez partir. Il n'en avait pas le droit parce qu'il n'était pas dans le cadre de l'agonie. En gros, ses douleurs physiques, on ne pouvait pas les soulager et personne n'avait de réponse à lui donner. Et donc on voit bien que les lois n'étaient pas suffisantes et il n'avait que comme solution que d'aller à Berne. Et avec Cyril, un de ses aides-soignants, nous l'avons accompagné pour ce dernier voyage qui était un moment extrêmement fort. Il était à bout et très heureux d'être libéré. Je peux vous dire que c'était un moment de soulagement pour lui jusqu'à la dernière minute. Je le raconte dans mon livre, il disait des blagues c'était formidable de voir ce garçon enfin heureux et soulagé. Après tant de souffrances, après l'avoir vu souffrir le martyr, hurler de douleur, qu'il puisse être soulagé. Et on voudrait que demain, il n'y ait plus d'Alain Coq, qu'on ne soit pas obligé de fuir en Suisse, parce qu'il faut avoir les moyens. Oui. Alain ne les avait pas d'ailleurs. On a dû organiser une solidarité pour trouver le financement pour lui. Donc ne l'oublions pas, c'est 10 à 15 000 euros. C'est quand même scandaleux que seules les personnes riches puissent pouvoir être soulagées. Alors tant mieux pour elles, mais on voit bien qu'il y a une vraie injustice.
Par exemple, Chantal Sébir avait aussi demandé une fin de vie hein, au tribunal, qui avait été refusée, et elle a fini par se donner la mort. C'est quelque chose qu'on ne veut plus voir.
Vous savez, Chantal Sébir, elle voulait mourir accompagnée de ses enfants, entourée, et elle n'a pas pu parce qu'elle voulait pas qu'il risque quoi que ce soit. Et donc, elle a dû mourir toute seule dans son appartement à Plombières-les-Dijon. Et je trouve que c'est terrible de laisser les gens dans cette souffrance. Et c'est vrai que cette ville, elle est associée à ces deux personnes. Et puis ce département qui a quand même aussi beaucoup souffert, je vous rappelle quand même, et je le raconte dans mon livre, qu'il s'est passé quand même quelque chose de terrible après la mort d'Alain Coq. C'est que l'évêque de la Côte d'Or interdisait d'abord un enterrement religieux. Alain Coq était très religieux, il voulait un enterrement religieux. Dans un premier temps, ça a été interdit. Alors il y a quand même eu un peu de mouvement autour de ça. Il est revenu en arrière, mais sauf qu'ils ont fait une chose que je trouve atroce et que j'oublierai jamais, c'est qu'on a accepté de lui faire une cérémonie religieuse, mais on a interdit à son cercueil d'entrer dans l'église. Et pendant que la cérémonie avait lieu, son cercueil était à l'extérieur. Est-ce que franchement ça, de la part d'hommes de religion qui sont là pour prôner l'amour, est-ce que franchement c'était un geste d'amour que de laisser le cercueil d'Alain Coq dehors jusqu'au bout de sa vie et au moment de sa mort? Je pense qu'on l'a humilié, je trouve que c'était quand même terrible de faire ça.
Votre livre est préfacé par Lynn Renaud, qui écrit notamment, je cite, « Ce livre est un cri, si notre vie nous appartient, il doit absolument en être de même pour notre mort. » C'est un message clair d'entrée, un message très fort. Vous êtes fier que Lynn Renaud ait préfacé votre livre ?
Oui, je suis fier. Lynn est une amie depuis très très longtemps et on a mené beaucoup de combats ensemble dans la lutte contre le sida. Et j'ai été très heureux le jour où elle nous a rejoint dans ce combat pour une fin de vie digne qu'elle porte aujourd'hui. Elle dit voilà, c'est aussi mon deuxième combat. Elle vient en plus récemment de sortir aussi un livre dans lequel elle proclame. Elle dit voilà, moi je veux avoir ce choix. C'est inacceptable de ne pas nous le donner dans notre pays. Et c'est une voix importante parce qu'elle est quand même proche du président de la République. Et donc c'est pour nous essentiel qu'elle puisse porter cette voix, évidemment qu'elle fasse cette préface magnifique en ouverture de mon livre. À la fois c'est un hommage au combat de toutes celles et tous ceux qui au sein de la DMD se battent depuis longtemps, et puis c'est un signe d'amitié que j'ai apprécié. Et puis voilà, c'est bien écrit, c'est beau et c'est fort, et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui pour arriver enfin à cette ultime liberté.
Jean-Luc Romero-Michel, vous êtes également le premier élu à avoir révélé votre séropositivité. Vous dites que votre combat contre le sida est finalement lié à celui de la fin de vie.
Oui, complètement. Vous savez, moi, j'ai connu... vos générations ne peuvent pas se l'imaginer, mais quand moi j'avais 20 ans et 25 ans, je voyais mourir mes amis de 20 ans, 25 ans, 30 ans, ce qui a été quelque chose d'horrible. Et ils sont morts dans des conditions atroces pour certains. Ils demandaient à être libérés, on s'acharnait sur eux. Et ce combat m'a forgé non seulement une volonté d'aimer la vie, parce que moi j'ai la chance d'être un survivant, plus de 35 ans après je suis toujours là, c'est une vraie responsabilité. Et en même temps je me suis dit voilà, moi je ne veux plus vivre ce qu'ont vécu mes amis, je ne veux plus que nos concitoyens vivent des morts aussi atroces, qu'on s'acharne sur eux, voilà. Et malheureusement des années plus tard on est encore dans cette situation. Mais c'est vrai que la lutte contre le sida, ça peut étonner hein, parce que c'est un combat pour la vie, mais le combat que je mène c'est un combat pour la fin de vie, parce que la mort ça fait partie de la vie, et ça me paraissait important, et de l'expliquer notamment dans ce livre, parce que certains y trouvaient une espèce de contradiction. Pas du tout, ces deux combats sont pour moi extrêmement complémentaires.
Vous le dites, vous êtes un combattant, vous avez traversé de lourdes épreuves. Est-ce que, aussi triste soit-il, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui il faut avoir souffert soi-même pour comprendre la souffrance des autres et porter leur combat ?
Vous savez, je pense que malheureusement, on a tous dans nos vies, les vies, je crois que personne ne connaît un bonheur éternel. Bon, moi, j'ai eu un certain nombre d'épreuves un peu terribles et très jeune en plus, mais oui, je pense que ça forge les choses. En tout cas, moi, ça m'a donné quelque chose. Vous savez, il y a toujours quelque chose de positif dans les drames, dans les douleurs. Ça m'a donné d'abord une force, et je suis vraiment un combattant qui a été ces dernières années, et j'espère encore quelques années, très fort. Et puis, ça m'a appris à apprécier la vie, parce que quand vous savez qu'elle va se terminer, vous savez, on est dans une société où les gens pensent pas à la mort. Oui. Et ils ont tort parce qu'ils l'évacuent. Et ils courent après plus d'argent, plus de responsabilités. Puis le jour où il leur arrive un drame, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas vécu comme ils l'auraient souhaité. Moi, ce virus m'a donné cette possibilité de vivre vraiment le moment présent. Et que ce ne soit pas juste des mots. Que je sache profiter de chaque seconde. Et puis quelque part, peut-être que j'aime mieux et que je fasse plus attention aux gens qui sont autour de moi, aux gens que j'aime. Et donc je pense que ça, c'est aussi une grande chance. Et qu'il n'y a pas forcément d'hasard dans la vie. Et que ce grand malheur, c'était peut-être ces grands malheurs que j'ai vécu, une leçon pour peut-être mieux vivre, pour être peut-être plus bienveillant. Et puis pour être plus que jamais un combattant pour la vie, pour la dignité.
Merci beaucoup.
Merci à vous.